auditeurs sur Radio Campus Tour, bienvenue si vous nous rejoignez. Chers auditeurs, c'est la Méridienne. Alors, saviez-vous que Claire Lecoeuvre était en résidence avec Livre Passerelle, un dispositif accompagné par Cyclique? Alors, si tout ça ne vous dit rien, eh bien, ce n'est pas très grave, puisque j'ai le plaisir d'avoir avec moi en studio les trois protagonistes importantes dans cette résidence. Bonjour Claire Lecoeuvre.
Bonjour.
Alors, vous êtes journaliste scientifique et auteur, autrice de documentaires. Voilà, vous avez été en résidence pendant 6 mois avec Livre Passerelle. Livre Passerelle qui est ici représenté par Jeanne Butter. Bonjour.
Bonjour.
Et nous avons également le plaisir d'avoir dans ce studio Clémence Aide. Alors, est-ce que je prononce bien votre nom?
Oui, c'est parfait, c'est Aide. Ouais.
Aide, voilà. Donc, Clémence Aide, vous êtes responsable du pôle livre de Cyclique. Donc, est-ce que vous voulez tout d'abord nous expliquer ce qu'est Cyclique et comment le pôle livre a permis la mise en place de cette résidence d'autrice?
Oui, bien sûr. Donc, Cyclique Centre-Val-de-Loire, c'est l'agence régionale pour le livre et l'image qui regroupe le cinéma et l'audiovisuel. Et donc, notre rôle, c'est de soutenir et d'accompagner la création dans ces deux champs artistiques et puis tout l'écosystème qui accompagne les auteurs, qui travaille avec les auteurs, donc tout, dans le cadre du livre, toute la filière livre. Donc on a les libraires, les éditeurs, tous les professionnels du livre et les associations, les structures qui travaillent avec les auteurs, qui les accueillent, avec l'idée comme ça de soutenir cette création, qu'elle soit diverse et puis qu'elle puisse aussi parvenir, créer du lien avec les habitants de la région et que ça participe comme ça à l'aménagement culturel de la région. Et donc, dans ce cadre, on a des dispositifs de soutien et on a des actions de formation, de temps interprofessionnel. Voilà, on travaille sur différents formats. Et c'est comme ça que, dans le cadre d'un dispositif qui s'appelle soutien aux résidences et auteurs associés, on soutient des structures comme Livre Passerelle, qui montent des projets avec des auteurs comme Claire Lecoeuvre. Et le principe, c'est que les auteurs ont un projet d'écriture et vont recevoir une bourse pendant quelques mois pour pouvoir se consacrer. Mais aussi, on montait avec la structure des temps d'échange, des temps qui peuvent prendre des formes très différentes selon leur projet et puis selon le travail de la structure avec laquelle ils travaillent, pour aller rencontrer un public, parler de leur processus de création, rendre ce public partie prenante aussi de leur avancée dans leur projet. Et c'est cette double dynamique. On se dit que pour l'auteur, l'autrice, ça permet d'avoir du temps et puis des échanges et ça permet d'avancer comme ça dans son processus de création. Et côté public, on se dit que le fait d'être comme ça partie prenante, de créer, d'échanger avec un auteur, une autrice, ça donne aussi des envies de lecture, de la curiosité, des envies d'écriture. C'est une double dynamique qui est rendue possible par le travail des structures comme Livre Passerelle, qui peuvent être des associations, des collectivités, des théâtres, structures culturelles ou pas, mais qui ont cette envie et cette expérience de travailler avec des auteurs.
Alors peut-être qu'on peut en dire un peu plus sur ce dispositif de résidence. Donc c'est vraiment un travail qui est confié aux auteurs. Donc c'est-à-dire qu'il y a quand même des exigences. Comment ça se passe? Est-ce qu'il y a, vous disiez, il faut faire des rencontres avec le public? Est-ce qu'il faut produire forcément une œuvre? Comment vous, choisissez les auteurs? Parce qu'on imagine que sur un dispositif comme celui-là, peut-être vous avez beaucoup de candidatures. Donc est-ce que c'est vous qui allez choisir des auteurs ou est-ce que c'est les auteurs qui viennent avec un projet?
En fait, ni l'un ni l'autre. Les auteurs peuvent venir nous voir en nous disant « j'ai envie de monter un projet et j'ai pas encore trouvé la structure ». Mais le principe, c'est que c'est les structures qui quand même sont porteurs de projets. Donc c'est avec elles aussi qu'on travaille. Et soit parfois, on peut avoir échangé avec un auteur et se dire « ah tiens, ça pourrait bien marcher avec cette structure » et on les met en relation. Et sinon, ça peut être aussi que tout simplement la structure et l'auteur se sont rencontrés avant et ont envie de monter quelque chose, et là, elles viennent nous voir. Donc, les différentes possibilités, il y a différentes possibilités. Et nous, on ne va pas choisir l'auteur, mais déjà, ce qui est important, c'est qu'il y a une vraie envie de travailler des deux parties prenantes, qui sont la structure et l'auteur, ensemble, et ils vont monter le projet. Nous, ce qu'il faut pour que l'auteur, l'éligibilité, c'est que l'auteur ait déjà publié au moins un livre à compte d'éditeur, donc ça veut dire avec une maison d'édition, un livre qui soit disponible, etc. Et on part du coup, c'est notre petit seuil minimum pour participer. Et ensuite, qu'il y ait un dossier avec à la fois un projet d'écriture, là où il n'y a pas du tout de demande de résultats. Donc c'est vraiment l'idée que ça va être une expérimentation et puis on verra bien ce qui se passe. Mais par contre, l'auteur dit, bah voilà, pendant ces quelques mois, si j'ai cette bourse, j'ai envie d'aller dans une direction, j'ai envie. Donc il nous raconte ça dans son dossier. Et de l'autre part, avec la structure, au vu de mon projet, puis au vu de ce que fait la structure, j'ai envie de rencontrer tel et tel public, d'aller dans telle forme. Et l'idée, c'est que pendant quelques jours par mois, l'auteur revienne sur le territoire. Donc, soit dans le cadre de résidence, il peut être tout le temps là et pendant 70% de son temps, il se consacre à son projet, il ou elle. Et puis, pendant 30% de son temps, il rencontre des auteurs. Ou dans le cadre de auteur, il rencontre un public, pardon. Ou dans le cadre d'auteur associé, l'auteur, l'autrice peut aussi être chez soi ou vivre sa vie et puis venir à hauteur de quelques jours par mois pour mener des actions. Il y a les formes, en fait, dépendent complètement aussi de... chaque projet est unique, chaque projet est sur mesure. Donc après, c'est aussi notre rôle à Cyclique d'aider à monter ce projet avec parfois des structures qui ont l'habitude et qui savent très bien ce qu'ils veulent faire. Et puis, nous, on essaye de... Voilà, on peut accompagner à minima. Et puis d'autres où c'est des structures qui vont se lancer dans l'accueil d'auteurs pour la première fois. Et là, on va essayer de donner un peu des tuyaux pour que ça se passe aussi bien que possible.
Et alors, trois résidences de création littéraire, dont la vôtre, Claire Lecoeuvre, sur les écologies. Alors, pourquoi cette thématique-là ?
Oui, donc en fait, c'est pas nous qui avons choisi cette thématique. Enfin, on s'est dit que c'était intéressant a posteriori, mais il se trouve que parmi les projets qui ont été soutenus cette année... On a fait le constat que dans des formes très différentes, des auteurs ont envie de profiter de ce moment à la fois pour leur créativité à eux, mais aussi pour l'échange avec des publics et des habitants, de questionner ces questions environnementales, ces questions écologiques. Et on trouvait que ça c'était intéressant, donc c'est pour ça qu'on a demandé à Christophe Meunier, qui est géographe et qui s'intéresse beaucoup à ces questions d'espace, de territoire, notamment dans l'album Jeunesse. On lui a demandé de faire un petit article, c'est ce à quoi vous faites référence, que vous pouvez retrouver sur notre site, pour mettre en perspective en fait des autrices et des auteurs. Donc Marin Schaffner avec la mairie de Boux dans le Loiret, Sarah Chevaux avec les bibliothèques d'Aglopolis à Blois et Claire Lecoeuvre avec Livre Passerelle. Chacun de ces trois auteurs et autrices ont réfléchi, ont créé, mais dans des formes extrêmement différentes. Et c'est ça qui nous intéressait, c'était de voir qu'il y avait des choses communes qui tenaient à cœur. On comprend au vu du contexte que c'est des choses importantes, mais de nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est comment la création, les créateurs s'en emparent, quoi. Voilà.
Merci. Alors, je me tourne vers vous, Jeanne Botter. Si on en croit votre site Livre Passerelle, on voit que l'association est coutumière de l'accueil de résidence. Hein. On voit, il y a des archives au moins à partir de 2009. Est-ce que vous voulez nous en dire plus ?
Alors oui, effectivement, le Livre Passerelle, qui existe depuis 1998, accueille un auteur en résidence chaque année depuis 2009. Donc ça peut être auteur, autrice, illustrateur, illustratrice, parfois les deux. Et donc chaque année, il est. Vous parliez du choix de ces auteurs et illustrateurs. Ce sont des rencontres. Effectivement, on reçoit régulièrement des demandes, puisque notre résidence peut être trouvée par Cyclique ou d'autres moyens, mais la plupart du temps, tous les auteurs qui sont venus depuis 2009, c'est le fruit de rencontres, surtout sur les salons. Claire, tu pourras expliquer peut-être la tienne. C'est la plupart du temps comme ça que ça se passe. On se rencontre sur un salon, on sent une affinité, un travail qui nous plaît, et puis voilà. Après, on construit ensemble la résidence.
Justement, on meurt de curiosité.
Oui, du coup, en l'occurrence là pour cette résidence, c'est une rencontre avec Dominique, donc qui est à l'origine de l'association Livre Passerelle, sur le salon de Chapitre Nature en Brenne. Et en fait, effectivement, on s'est très bien entendu. J'ai découvert en fait Livre Passerelle avec curiosité, et c'était extrêmement agréable en fait de voir toutes ces lectures auprès des enfants, de voir les effets que ça avait aussi pour les enfants et pour les adultes d'ailleurs.
On a dû te lire une histoire, j'imagine.
Voilà, on a lu une histoire à ma fille, donc c'était hyper chouette. Et en discutant avec Dominique, on s'est effectivement très bien entendu, et donc au final, voilà, elle m'a parlé de cette résidence. Et pour moi, c'était très intéressant parce que c'était, je n'avais pas fait de résidence jusqu'à présent. Et donc c'est vrai que ça permet de penser aussi son projet en se disant, bah voilà, effectivement, ça permet de rencontrer un public spécifique. Donc on peut imaginer ce que ça peut nous apporter. Enfin moi j'avais plein d'envies autour d'un projet que j'avais imaginé. Et c'est vrai que rencontrer un public, ça permet justement d'avoir un retour sur l'idée qu'on a eue. Et puis de voir qu'est-ce que ça peut donner, comment ça peut évoluer pour coller. Moi ce qui m'intéresse beaucoup finalement, enfin j'écris pour la jeunesse, ce qui m'intéresse c'est d'avoir les retours des enfants, de voir comment eux ressentent les livres. Et comment ça va les toucher ou pas. Donc d'essayer d'être plus juste aussi en fonction de ce qui peut les toucher. Donc ça, c'est une richesse très importante de pouvoir les rencontrer et de construire, de co-construire des projets avec eux. Donc voilà, donc, c'est comme ça que j'ai pu faire cette résidence avec Livre Passerelle et découvrir tout le travail que vous faites.
Et ça se fait quasiment tout le temps comme ça.
D'ailleurs, il y a une orientation spécifique aussi à Livre Passerelle, pardon, voilà, je bafouille. Je crois que vous portez un intérêt particulier à la lutte contre l'illettrisme.
Oui, tout à fait. Donc, bah, c'est, du coup, j'en profite pour présenter Livre Passerelle. C'est une association d'éducation populaire, donc, comme je disais, qui a été créée en 98 pour lutter de manière préventive contre l'illettrisme, d'une part, et plus largement pour favoriser le lien entre les gens, tout simplement. Alors, lutter contre l'illettrisme, c'est parce que donc les fondatrices sont issues de la formation pour adultes et elles formaient des adultes illettrés et elles se sont rendues compte que dans leur histoire, souvent leur petite enfance, leur enfance a manqué de mots, a manqué de récits, a manqué d'histoire, dans sa globalité, avec le passé, avec le futur. Souvent, leur histoire, c'est plutôt conjuguée au présent, viens manger, mets tes chaussures, etc. Et qu'il y avait, la langue du récit n'avait pas été présente. Et devenus adultes, ils avaient développé des stratégies incroyables pour pouvoir s'en sortir dans un monde où, sans savoir lire, c'est quand même très compliqué. Donc, tout de suite, la question de l'intelligence de ces personnes-là a été évacuée. C'était simplement un parcours un petit peu chaotique qui les menait là. Et souvent, ces adultes illettrés reproduisaient avec leurs enfants la même chose, puisqu'ils n'étaient pas à même de leur raconter des histoires et qu'il y avait un passé douloureux avec cette langue. Donc, l'idée a été d'introduire des pratiques de lecture dès le plus jeune âge dans les familles, pour en passant par le plaisir de la lecture, pour que le livre rentre partout là où il n'est pas.
Alors, est-ce que vous voulez nous donner des exemples avant d'en venir justement aux actions menées dans le cadre de cette résidence, parce que Livre Passerelle, vous œuvrez toute l'année et partout. Mmh. Alors est-ce que vous voulez nous en dire plus?
Alors oui, on va lire effectivement là où le livre n'est pas attendu, c'est-à-dire on va lire dans les salles d'attente de PMI, la prévention maternelle et infantile. Donc ce sont des consultations médicales gratuites pour tous, ouvertes à tous. Donc on va dans ces salles d'attente, on va aussi à l'entrée des écoles ou à la sortie des écoles, toujours sur le lieu de passage un peu des parents et des enfants. On va pas dans les écoles, mais on va à la rencontre des familles. Donc le matin à 8h30 ou bien le soir à 16h30. On va aussi devant la maison d'arrêt, on va à l'hôpital, dans les centres sociaux. Et donc on va à la rencontre des adultes et des enfants avec nos livres. Et nos livres qu'on a choisis pour leur intérêt graphique, leur intérêt, l'intérêt du message, l'intérêt de la qualité de l'écriture. Et grâce à ces livres, on fait le pari de la rencontre. Ces livres, comme le dit notre nom, ce livre construit des ponts entre les gens. Et puis, quand les gens se parlent et se rencontrent, en général, ils n'ont plus peur les uns des autres. Ils ont envie. Ça donne de l'énergie à tous.
Et voilà. Si je peux juste me permettre d'appuyer, parce qu'en fait, on a toujours l'impression que lire des histoires, déjà c'est que pour les enfants, ça sert à rien, etc. Enfin, ça peut paraître très anodin pour beaucoup, beaucoup de personnes. Et en fait, d'entendre une histoire, que quelqu'un nous lise une histoire, ça produit vraiment un effet très très fort. Enfin, en fait, c'est vraiment pas du tout la même chose déjà que de lire soi-même un texte. Et il y a plein d'émotions en fait qui ressortent, et c'est là toute la force d'ailleurs des animatrices de Livre Passerelle, c'est que en fait elles transmettent aussi un message de par leur lecture. Elles impliquent vraiment la personne à qui elles lisent, et c'est comme ça aussi, je pense, que se crée la passerelle justement entre les gens. Mm-hmm. C'est vraiment ça amène aussi énormément d'émotions cette lecture là, mm-hmm. cette manière de lire.
On mise sur le plaisir partagé, et quand le plaisir est partagé, ça donne envie de continuer, quoi.
D'ailleurs, je me tourne vers vous, Clémence Aide. Cette idée de lecture à voix haute, ça fait écho aussi à un dispositif porté par Cyclic qui s'appelle 1000 lectures d'hiver.
Oui, tout à fait. Alors, c'est un dispositif qui est en train de prendre une nouvelle forme pour cette année. Mais c'est un dispositif qui existait depuis, en effet, 20 ans et qui repose vraiment sur l'idée de lire de la littérature contemporaine à voix haute par des comédiens. Et dans des endroits, pas dans des petits groupes, dans des endroits où ça peut être dans le cadre privé ou dans un cadre public, mais en tout cas toujours collectif. Et voilà, c'était l'idée d'amener 1000 lectures d'hiver. Initialement, c'était vraiment dans l'hiver, et c'était des comédiens qui viennent comme ça lire de la littérature où on ne sait pas à l'avance ce qu'ils vont lire. C'est leur choix. Donc c'est en train d'être pensé pour cette année. On communiquera bientôt dessus. Mais il y a toujours cette idée très forte de la lecture à voix haute, qui est très importante et sur laquelle on a envie, bien sûr, de continuer à travailler, toujours avec des comédiens et avec des écrivains. Mais ça va prendre une forme différente. Mais en effet, cette idée de valoriser la lecture à voix haute, c'est essentiel.
Et d'ailleurs, il y a des vrais talents chez Livre Passerelle, hein, donc j'invite nos auditeurs à se rendre sur le site, puisqu'il y a des lectures à écouter. Et justement, ces voix qu'on entend, c'est donc les bénévoles, je pense, ou peut-être des salariés.
Les salariés, essentiellement. Quelques bénévoles aussi. Alors, je précise, du coup, pour ces lectures enregistrées, quand même, qu'il y a un contexte, c'est pas vraiment ce qu'on fait d'habitude. Ces lectures partagées, ça a été une idée qui est née pendant le confinement, tout simplement. Lors de cet arrêt brutal pour tous de mars 2020, étant donné qu'on est très en lien avec nos partenaires, on travaille vraiment en partenariat avec les acteurs locaux, hein, quels qu'ils soient, institutions, associations. Et là, on est resté donc en lien avec les professionnels de la PMI, dont je parlais tout à l'heure. On se disait que comment garder le lien avec les familles qu'on voit toutes les semaines dans les salles d'attente. Les puéricultrices, elles, continuaient quand même leur visite à domicile. Et donc, on a eu l'idée d'enregistrer les histoires que les familles ont l'habitude d'entendre. On a chacune des valises. On vient toujours dans les salles d'attente avec nos valises remplies de livres. Et puis, il y a des best-sellers, évidemment. Et donc là, on a enregistré ces lectures pour que les puéricultrices puissent les emmener dans les familles ou les transmettre aussi, parce que aujourd'hui, si tout le monde n'a pas d'ordinateur, tout le monde a quand même en général un téléphone et voire un smartphone. Donc on les a transmises comme ça. Voilà, c'était pour garder le lien, mais on n'est pas des professionnels de cet exercice-là qui est quand même... Voilà, on faisait ça chez nous, parfois sous une couette pour étouffer les bruits. Enfin voilà, ça peut être sympa de les découvrir, évidemment. Mais bon, la qualité auditive n'est pas toujours là.
Au demeurant, je vois qu'il y a à côté de vous un album. Voilà, dans ce studio, on a la chance d'avoir des albums. Est-ce que vous voudriez nous le lire, justement, puisque vous dites ne pas être professionnel de la lecture enregistrée. Au demeurant, Livre Passerelle, c'est quand même un véritable talent de lecture. Donc,
oui, ça, la lecture à voix haute. Et surtout, vu que le but est de partager, c'est pour ça que l'enregistrement, c'était juste un palliatif. Alors oui, j'ai apporté plusieurs albums, parce que ça nous rassure, nous, d'avoir nos albums autour de nous. Là, je vais vous lire un tout petit album, un petit poème, pour lequel il n'y a pas besoin de voir. Enfin, les images sont très jolies, mais il y en a certains, si on ne voit pas l'image, c'est quand même... on ne comprend pas l'histoire. Donc là, je vais vous lire un tout petit album, un petit poème de Norge, qu'on aime beaucoup, et qui fait beaucoup rire, qui nous fait beaucoup rire, et qui s'appelle « On peut se tromper ». On peut se tromper. Tiens, c'est une girafe. Et j'ai cru si longtemps que c'était un pommier. Alors, ces pommes que j'aimais tant, C'était de la crotte, Aristide.
De la crotte ?
Alors, j'aimais de la crotte.
Mais oui, Aristide, on peut se tromper.
Et le principal, c'est d'aimer.
Voilà.
Voilà.
Bon, un problème de mélange.
Et alors, là, je... Merci pour cette lecture. Hein, de... c'est vrai que c'est très drôle. Et alors, je vois que dans ce studio, il y a aussi d'autres albums. Et là, c'est les vôtres, Claire Lecoeur. Alors, il y a Étonnant, Être vivant, C'est quoi la nature et les petites chauves-souris. Alors là, on voit quand même cette thématique de l'écologie et de la nature. Ça a l'air d'être quelque chose qui vous est cher. Donc, pourquoi vous intéressez particulièrement à ça?
Alors c'est un intérêt qui remonte à loin. En fait, il se trouve que on pourrait remonter à très jeune. Il se trouve que j'ai eu des parents qui m'ont beaucoup mené à ça, avec qui on a beaucoup jardiné, beaucoup regardé les plantes et beaucoup regardé les oiseaux. Et puis bah c'est resté parce que cette question en fait plus largement en fait alors l'écologie on va dire que c'est venu plus tard, mais en fait plus largement cette question de la biologie en fait, de comment vivent les êtres vivants. Et puis comment on fonctionne et vit ce qu'il y a autour de nous, ça m'a toujours beaucoup intéressée. Donc, c'était juste de la curiosité en fait envers ce qui nous entoure. Et puis je trouvais qu'il y avait quand même des histoires intéressantes en fait dans tout ça. Donc, disons que j'ai beaucoup hésité plus jeune dans mes études à faire des études littéraires ou des études de biologie. Donc c'est la biologie qui a gagné et donc j'ai fait un master dans ce qu'on appelait la gestion des écosystèmes, ce qui ne veut pas dire grand chose mais bref, en biologie des organismes. Et par la suite j'ai changé de voie et j'ai décidé d'aller faire du journalisme, donc du journalisme scientifique, ce qui me permettait justement de pouvoir retrouver en fait l'écriture tout en parlant de sujets qui me semblaient intéressants, où il y avait un vrai élément de compréhension, d'explication, non, je dirais pas de pédagogie, mais en tout cas de transmission. Et donc ça m'a beaucoup intéressée. Et puis par la suite, j'ai un peu franchi le pas et j'ai proposé des livres. Mais forcément, les ouvrages que j'ai proposés, c'était aussi sur l'écologie. Parce que voilà, ça reste un peu les thématiques qui me sont chères depuis un peu toujours.
Mais alors, parce que vous produisiez des contenus journalistiques, mais pour quel type de médias ?
Alors, pour tout type de médias. J'étais journaliste scientifique pour la presse, j'ai toujours été pigiste, et j'ai travaillé pour Géo, pour National Geographic, pour des magazines de plus spécialisés, j'ai travaillé aussi pour La Salamandre, j'ai travaillé pour... Géoado, pour Wapiti, pour Waku, pour plein de choses très différentes. plutôt du magazine, on va dire. Qui... Alors, j'ai aussi travaillé un tout petit peu pour l'humanité.
Le diplôme, quand même.
Oui. mais voilà, c'était plutôt du magazine, ce qui, en fait, avait un grand avantage, c'est que j'avais plus de temps pour faire mes sujets. Et moi, je suis pas très rapide. Je suis quelqu'un de plutôt lente, donc j'aime bien avoir le temps de creuser un peu mes sujets et avoir le temps de les écrire. D'où aussi le passage un peu sur le livre. Alors, c'est plutôt du documentaire que de l'album, ce que je fais. Et donc, à chaque fois, voilà, sur un sujet un peu spécifique et qui va me permettre de pouvoir creuser certaines questions.
Alors, comment vous pensez une différence entre une écriture journalistique, une écriture documentaire et une écriture pour un album? Parce que
alors c'est pas facile. Disons que je le tournerai pas forcément comme ça. Disons que c'est juste que j'ai cette, pour moi c'est plutôt ma zone de confort d'écrire des articles, d'écrire quelque chose de documentaire. Après, ça demande quand même une réflexion, hein, évidemment, sur le format, sur comment on veut montrer les choses, comment on veut les raconter. Mais disons que, voilà, pour moi, c'est plus du documentaire en tant que tel. L'album, c'est vraiment, enfin, moi, je différencie l'album du documentaire. L'album étant plus une histoire fictive. Et après, ce qui est très drôle, c'est de pouvoir mêler un peu les deux, de faire des albums où il y a du documentaire et où il y a de la fiction. Et ça, je trouve ça de plus en plus drôle. Et c'est d'ailleurs le projet sur lequel j'ai travaillé dans cette résidence. C'est effectivement un livre où on mêle les deux. Et en fait, ce qui m'intéresse beaucoup, c'est justement de toujours sourcer un petit peu mes références, d'apporter des éléments qui soient réels et en même temps de pouvoir jouer avec ça et d'ouvrir un petit peu plus les imaginaires sur comment on vit, sur comment on voudrait vivre et qu'est-ce qu'on pourrait faire. Et pour moi, le lien avec l'écologie, il est là aussi. C'est que pour moi, l'écologie, c'est pas purement la science que j'ai pu étudier auparavant. C'est en fait comment, enfin les imbrications qu'il y a entre tout ce qui vit. Et donc ça se fait évidemment au niveau environnemental, c'est-à-dire qu'on va avoir un regard sur l'environnement en essayant de préserver certaines espèces, certains milieux, mais en fait c'est aussi tout simplement comment on peut vivre, peut-être en équilibre, pas forcément en harmonie, mais au moins en équilibre, les uns avec les autres, humains comme non-humains. Donc pour moi tout est assez lié en fait.
Mais alors finalement, qu'est-ce qui différencie vraiment, à votre sens, votre écriture de journaliste, donc pour tel magazine, avec ses contraintes, avec peut-être sa coloration politique, et votre écriture de documentariste ou d'auteur d'album, d'autrice d'album?
Bah après, c'est un format qui est totalement différent, effectivement, le format, enfin journalistiquement parlant, on va choisir un angle, un sujet, puis un angle. Et on va s'arrêter entre guillemets à cet angle. Déjà sur le format, on ne peut pas tout traiter. On fait pas justement un livre justement sur un sujet spécifique qu'on va essayer de traiter dans tous les sens. On choisit un angle et ça c'est d'ailleurs très important. C'est on va essayer de répondre à une question dans un article. Parce que effectivement, ce que je fais c'est plutôt de l'enquête, mais il y a plein de formats différents journalistiquement parlant qui va être de l'interview. Ou d'autres choses, mais c'est vrai que quand on est dans le reportage ou dans l'enquête, on va essayer de répondre à un angle spécifique. Sur le livre, là, pour le coup, j'aborde le sujet totalement différemment. Par exemple, le livre sur les petites chauves-souris, bah, je vais essayer d'apporter des éléments sur comment vivent les chauves-souris, ce que sont les chauves-souris. Donc c'est très très large, en fait. Et après, la grande difficulté, c'est de faire un choix quand même dans les informations qu'on va donner, déjà de par la forme. Donc là, par exemple, celui sur les petites chauves-souris, c'est plutôt une histoire quand même, qui permet de raconter comment vivent ces animaux. Après, il y a d'autres formats beaucoup plus courts. Le livre que vous aviez entre les mains, un des derniers publiés chez Amatera, le Étonnant être vivant, il a plus ce format journalistique. L'idée, c'était justement de mettre plutôt des petits articles sur des manières de vivre un peu particulières. Mais c'est globalement assez rare dans mes albums. Et la forme qui m'interroge en ce moment, c'est plutôt d'essayer de justement réfléchir en fait à l'interaction qu'on peut avoir dans un livre, qu'on n'a pas dans un journal, pour jouer en fait avec l'information qu'on apporte ou la réflexion qu'on peut apporter, parce que finalement, ce qui m'intéresse plus, c'est de poser des questions et c'est de faire se poser des questions que d'apporter une information extrêmement détaillée, très précise. Parce qu'en fait, on peut jamais faire ça dans un livre jusqu'au bout. L'idée, c'est plutôt de donner envie d'aller voir, de donner envie de se poser des questions et qu'ensuite, chaque lecteur, lectrice peut aller creuser. Donc pour moi, c'est plutôt ça.
Et alors, donc, on voit dans des écrits scientifiques ou dans des écrits journalistiques, il y a peu de place pour le jeu, en fait. Les gens, enfin, le jeu, J.E., le moi, enfin, faut trouver d'autres façons de de personnaliser son discours. Donc, peut-être qu'il y a un champ plus libre dans le documentaire ou dans ces albums-là. Donc, comment vous personnalisez votre écriture? Comment vous autorisez aussi à personnaliser votre écriture sur ces projets d'écriture qui ne sont pas vraiment du journalisme?
Je me suis pas trop posé la question. Je pense pas que je personnalise mon écriture. Je pense que j'ai une idée et une manière de traiter. Enfin, j'ai envie de le traiter d'une certaine manière et je m'y mets. je pense pas que je réfléchis à comment personnaliser ce que je fais. Après, c'est plutôt que il y a des sujets qui m'intéressent et j'ai envie de les traiter d'une certaine manière parce que ça m'intéresse, parce que ça me plaît, parce que je pense que ça peut apporter quelque chose d'un peu nouveau. Je pense que c'est tout. Enfin, Je suis pas sûre que je... Même quand j'écris des histoires, je me pose pas trop cette question. Juste j'écris l'idée que j'ai envie de développer. Après, on peut jouer sur la forme, ça c'est sûr, et ça c'est même très très drôle. Mais parce que voilà, ça, c'est juste un jeu, justement. Un jeu J-E-U.
Est-ce que c'est dans l'humour alors que ça peut résider, cette idée d'avoir un discours plus personnel, que ce soit dans un écrit de journaliste ou d'album, en fait?
Alors, mais en fait, cette question de la personnalité du texte, il n'y a pas tant besoin de la réfléchir. En fait, si on écrivait tous plusieurs fois les uns ensemble, les uns avec les autres, on se rendrait compte qu'on a tous une écriture différente. Ça se perçoit beaucoup dans des ateliers. Quand on fait des ateliers avec des personnes pendant pendant un certain temps, après, on pourrait mélanger les textes et les lire sans dire qui les a écrits, on saurait qui les a écrits. En fait, on a tous une manière d'écrire très, très particulière, très personnelle. Donc ça se retrouve. Alors après, quand on va retravailler le texte, et en général dans les livres, c'est retravaillé quand même par plusieurs personnes, ce ton-là, effectivement, peut parfois être un peu érodé. Mais globalement, si on se laisse écrire, si on sort de ces contraintes qu'on peut avoir de vouloir réussir telle chose ou telle chose, on a un vrai ton personnel et ça marche.
Et d'ailleurs, cette recherche de format d'écriture, vous avez choisi quelque chose de particulier pour cette résidence, un livre dont vous êtes le héros.
Ah ouais. Alors moi, j'ai beaucoup aimé les livres dont vous êtes le héros quand j'étais plus jeune. Et en fait, justement, c'est l'idée là, c'était un peu de sortir du carcan documentaire en tant que tel. C'est-à-dire que moi, ce qui m'intéresse, c'est vraiment qu'on essaye de réfléchir à, en fait, quelle vie on voudrait avoir par la suite. Quel avenir on voudrait et comment on voudrait construire ensemble notre vie. Entre autres, pour sortir du monde dans lequel on est, libéral, capitaliste, extracteur, extractiviste, etc. Peu social. Bref, ça m'intéresse qu'on essaye de réfléchir en fait à quels pourraient être nos mondes demain et comment on aurait envie de les construire. Et donc évidemment c'est un peu un gros sujet, mais du coup j'avais envie de le relier en fait à la problématique environnementale plus qu'écologiste même. Et donc ce qui m'intéressait c'était de se dire finalement les livres dont vous êtes le héros, chacun choisit au fur et à mesure du livre. Chacun fait des choix et ça l'emmène vers des scénarios différents. Et je trouvais ça assez chouette de se dire, en fait, on pourrait imaginer plein de scénarios très très différents. Et en fonction des connaissances écologistes qu'on a, des problématiques écologistes qui s'offrent à nous, on peut faire certains choix qui vont nous mener vers des scénarios plutôt chouette ou plutôt un peu moins chouette pour faire très schématique. Je trouvais ça assez marrant en fait de partir là-dedans. Et après, en travaillant dans le vif du sujet, c'est quand même c'est un peu complexe. Un gros chantier, voilà. Mais qui est très très chouette. Donc ça demande quand même vraiment là sur l'écriture, c'est assez complexe parce que justement, ça demande d'être dans la fiction, mais en même temps en ayant quand même quelques données tangibles qui sont, quelques chiffres et quelques éléments vraiment tangibles. Et ça, c'est quand même pas très, c'est pas très glamour, c'est un peu compliqué de pouvoir mettre ça dans un livre. Surtout pour un livre pour ados. Et donc moi, ce que j'avais besoin, justement, c'était de savoir un petit peu qu'est-ce qu'en pensaient les jeunes aujourd'hui, qu'est-ce qui les touchait, qu'est-ce qui les intéressait dans ce projet-là, et de pouvoir un peu ajuster, en fait, ce qu'on pouvait dire dans un tel livre. Et en fait, c'est aller un peu plus loin que ça, parce qu'au final, ce qui m'intéressait beaucoup, c'était de faire de débattre avec ces jeunes. Et au final, ils se sont emparés des sujets de manière assez incroyable. Et ça a mené à plein, plein, plein de débats très chouettes sur des choses vraiment très précises. Hein. Donc, je proposais au groupe. Donc là, on travaille avec. Je vais un peu plus loin dans la résidence. On a travaillé avec deux collèges. Un à Tours, au Sanitas, le collège Jules Michelet. Et le collège Roger Jahan à Descartes. grâce à l'équipe de Livre Passerelle qui c'est elles qui m'ont pu me proposer en fait ces structures. Moi je suis arrivée en disant voilà, j'avais envie de rencontrer les collégiens et donc elles m'ont proposé ça. On a pu discuter avec les enseignantes qui étaient enseignantes et enseignantes, mais là il se trouve que c'était que des enseignantes qui étaient motivées. Et donc j'ai rencontré donc deux classes, une classe de sixième, une classe de cinquième, et qu'on a divisé en deux groupes. Et chaque groupe a pu choisir parmi différentes thématiques, c'est-à-dire je leur ai proposé le transport, l'habitat, l'alimentation, l'énergie, l'industrie et le vivre ensemble. Voilà. Et donc ont été choisis l'agriculture, le transport et l'habitat par deux groupes. Et en fait, c'est pas toujours des sujets faciles. Hein. Il y a vraiment énormément. Au début, il y a eu tout un travail quand même avec les enseignantes pour apporter des informations, pour déjà savoir un petit peu ce qu'ils connaissaient de ces sujets. Qu'est-ce que c'était l'écologie pour eux? Est-ce qu'ils connaissaient un petit peu la question du changement climatique? Donc on a eu des échanges là-dessus. Et en fait, ils ont pris ce sujet-là et ils ont imaginé comment eux ils pourraient vivre autrement, comment ils pourraient changer un petit peu l'agriculture, changer l'habitat, changer les transports. Et en fait, c'est toujours chouette parce qu'on se rend compte que globalement, les jeunes sont quand même plus lucides que les adultes. Ils ont souvent des idées assez directes, assez cash et assez justes, à mon sens. Donc c'est toujours très hyper rafraîchissant et hyper intéressant de voir qu'est-ce qui leur parle eux en fait, comment eux ils imaginent pouvoir grandir dans ce monde et le changer.
Est-ce que vous avez justement des idées que vous aimeriez nous partager avec nous sur des choses un peu étonnantes que ces jeunes ont pu vous proposer?
Dernièrement, là, on a retravaillé avec le groupe sur le transport. Et le transport, c'est la question qui est vraiment pas facile à aborder. Parce qu'en fait, c'est... Certes, on marche tous, on utilise tous plus ou moins des transports en commun ou des voitures. Mais d'imaginer autre chose, c'est quand même très compliqué. On est dans une structure de société qui fait que c'est quand même pas facile d'imaginer autrement ça. Et le petit groupe avec qui je travaillais était sur un chapitre où on travaillait sur la rencontre avec une association écologiste. Et donc là, je leur disais que là ils pouvaient dire tout ce qu'ils voulaient finalement. Ils avaient mis en avant les problématiques écologistes qu'il y avait avec les transports, et donc l'un d'entre eux me dit on n'a qu'à dire qu'il faudrait interdire les vols en France dès qu'il y a un train, qu'il faudrait mettre un périmètre en fait pour que les gens ne puissent pas travailler loin de là où ils habitent, jusque dans un certain périmètre kilométrique, qu'il faudrait supprimer les fusées, parce que quand même, franchement, ça sert à personne. c'est juste ce genre d'exemple. Et en fait, oui, effectivement, je pense que c'est des bonnes solutions. Alors là, dans ce groupe-là, il y a un pan social qui est très important et que je trouve très intéressant. C'est vraiment des enfants qui ont, dans tous leurs textes, qui ont eu à cœur de garder ce point social pour que, d'une part, tout le monde puisse donc accéder au transport, mais tout le monde puisse accéder à l'habitat pour le groupe Habitat. Et ça, c'est vraiment chouette, en fait, de voir aussi cette attention qu'ils ont au fait que tout le monde puisse vivre correctement, qu'il n'y ait pas de différence.
Ça, c'est quelque chose à quoi vous attendiez, ou vraiment c'était surprenant d'avoir ces propos-là?
Je savais pas trop à quoi m'attendre parce que la difficulté du sujet est quand même haute. En fait, intégrer la réalité des problématiques, elle est quand même pas facile. Ils ont tous entendu dire que voilà, il faut pas polluer, qu'il y a trop de plastique, etc. Ou que la température augmente, mais en fait c'est compliqué de percevoir vraiment quels sont les problèmes en fait, parce que en fait ils sont pas dit, on va jamais dans le fond du problème. Et donc appréhender ça, ça me semblait effectivement pas facile. Et donc avoir des propositions sans appréhender ces problèmes me semblait impossible. Donc je ne savais pas du tout à quoi m'attendre par rapport à cette appréhension du problème. Et au final, oui, c'est. Je dirais pas que c'est. Je sais pas si c'est surprenant. En tout cas, c'est. Je trouve ça vraiment chouette que ce soit pris comme ça et que ce soit réfléchi. Après, il y a eu d'autres discussions qui étaient un peu plus dures avec d'autres groupes où là, pour le coup, il y a eu énormément de clichés qui sont sortis et je m'attendais pas du tout à ça pour le coup. Mais en fait, voilà, c'est juste que ça permet de percevoir vraiment ce qu'ils ont en tête et surtout ce qu'ils voient ou ce qu'ils entendent autour d'eux.
Et il est important de dire que Claire a d'abord tenu à aussi à les abreuver en information. Tu dis si je me trompe, Claire, mais elle leur a transmis un certain travail journalistique d'aller chercher l'information, la chercher au bon endroit, l'ingurgiter, parce qu'en plus, effectivement, c'est pas toujours des informations très faciles à aborder en sixième ou en cinquième. Donc, ils se sont d'abord vraiment nourri d'informations et de sources, de bonnes sources, avec l'aide de Claire, avec l'aide aussi, ça c'est toujours la force du partenariat, avec l'aide de leur CDI, de leurs enseignants évidemment, et de la bibliothèque. Tous ces gens ont travaillé ensemble autour de ce projet qui effectivement a pris, il y a eu une émulsion autour de ce projet qui était assez étonnante. Et alors c'est en vérité souvent le cas, parce que quand les gens sont motivés, ils embarquent les autres. Mais c'est vrai que il y a eu ils ont pris à bras le corps ce projet qui va au final en plus aboutir. Je te laisse en parler, mais aboutir à un petit livret. Alors ça sera là, c'est les prémices de ton livre, mais il y aura aussi un petit livret pour eux. Donc il y a eu l'implication de beaucoup d'acteurs. Et donc, pour les enseignants qui sont quand même, qui on le sait, hein, on est quand même en difficulté aujourd'hui dans le contexte actuel. Voilà, je crois que ça a apporté une bouffée une bouffée d'air à tous ceux qui étaient impliqués dans ce projet.
Et en tout cas, ça n'aurait pas pu fonctionner comme ça, effectivement, sans les enseignantes, sans les documentalistes, sans les bibliothécaires qui ont fait, ça a fait une équipe hyper chouette, hyper motivée qui a vraiment pu prendre ce projet à bras le corps. Oui.
Tu disais que t'es lente, mais enfin, Claire, quand elle a une idée, elle la propose, c'est oui, ok, on y va. Et le lendemain, tout est fait, tout est organisé. Donc, on a participé au festival alimentaire. Il y a eu toute une deux projections de documentaires avec du public, avec les collégiens. Tout ça, ça s'est fait en très peu de temps. Enfin voilà, il y a une énergie chez Claire aussi qui est très porteuse, quoi.
Et le travail avec un artiste aussi, t'as travaillé avec un artiste à Chinon.
Oui, en parallèle, oui, on a travaillé à Chinon avec deux écoles et avec donc Florent Lamoureux, oui, qui est artiste. Là c'était aussi alors là pour le coup c'était vraiment une co-construction avec Emeline de Livre Passerelle et Florent avec Alice aussi de la médiathèque du Chinonais. Et en fait, on a discuté en fait de qu'est-ce qu'on pouvait faire. Donc, on avait ces mêmes questionnements avec Florent, et donc là, ça a mené à tout un travail autour plutôt des déchets. Et donc, il y a eu ce double travail avec les enfants de création d'une œuvre d'art à leur échelle, mais à partir des déchets qu'on a pu récolter tout autour de leur école. Et moi, j'ai fait plus la partie écriture sur les déchets qu'ils avaient vus, en plutôt journalistique, là, qu'est-ce que c'était, d'où ils venaient, pourquoi ils étaient là, et de se questionner sur, est-ce que c'est normal d'avoir autant de déchets autour de chez soi, plutôt dans la campagne. Donc ça a fait l'objet, du coup, d'une exposition, et c'était très, très chouette aussi. Oui.
Et c'est pareil, tous les auteurs qui passent en résidence chez Livre Passerelle, on monte un projet avec ces deux écoles de CI et Marseille dans le Chinonais, et avec toujours les mêmes enseignants, mais les enseignants restent, mais les enfants changent chaque année, et donc c'est devenu un peu un rendez-vous. Les enfants qui rentrent dans l'école attendent de pouvoir être dans cette classe pour pouvoir travailler avec un auteur, et de la même manière que ce qu'on expliquait tout à l'heure, Il y a aussi, c'est vraiment un travail de partenariat. Alors, de partenariat de longue date, hein, c'est pas, ça se fait pas comme ça. Mais le partenariat avec la bibliothèque, avec les enseignants, avec les acteurs du terrain, pour pouvoir construire ensemble, parce que c'est quand même plus drôle. On a l'habitude de dire qu'on fait rien tout seul. C'est quand même plus drôle quand on fait ensemble. Surtout en ce moment où on a été un peu empêchés quand même.
Et clairement, enfin, moi, j'ai beaucoup apprécié cette résidence, et notamment parce que l'équipe de Livre Passerelle est quand même hyper dynamique, hyper accueillante, hyper bienveillante. Et dans le travail, c'est vraiment soutenant, en fait. Parce qu'effectivement, il y a toujours cette partie un peu compliquée. Quand on est auteur, autrice, on se retrouve forcément à un moment donné un peu seul dans son appartement à écrire. Et en fait, c'est quand même très, très chouette de savoir voilà, qu'il y a cette équipe. Avec plein de personnalités très, très fortes et très chouettes. Donc ça joue énormément. Et donc, d'avoir toutes ces relations, c'est un peu, ça arrive presque un peu sur un plateau quand on arrive et qu'il y a les premières réunions. Et en même temps, c'est très construit. C'est très, très agréable. On prend du temps pour construire ses projets. C'est vraiment, vraiment agréable.
Donc vous expliquiez aussi... Claire Lecoeur, dans votre démarche de aussi de donner des sources justes et fiables à ces collégiens pour s'informer sur l'écologie. Donc, est-ce que on peut dire que, puisque vous êtes autrice et journaliste, est-ce que vous pensez que cette approche-là, ça rejoint aussi l'éducation aux médias quelque part?
Alors, forcément, il y a une part de ça, dans le sens où je sais pas si c'est de l'éducation aux médias, mais en tout cas c'est de ça rentre dans l'éducation aux médias. Mais disons qu'il y a forcément un moment où il faut quand même qu'on parle de qu'est-ce que c'est qu'une source primaire, comment on va chercher vraiment une information de qualité. Et donc on parle pas des journaux en tant que tels, mais en tout cas oui dans le Chinonais par exemple. On s'est pas mal questionné. Il a fallu quand même que j'explique aussi, effectivement aux enfants où est-ce qu'on va chercher une information, quelle information peut-on considérer comme fiable, comment on peut la vérifier. Et en fait, ça, c'est pas du tout facile, effectivement, pour les enfants, a priori. Donc, il y a forcément ça. C'est nécessaire, en tout cas. C'est nécessaire de pouvoir se questionner sur comment on peut définir qu'une information est juste ou pas. c'est pas évident, c'est de moins en moins évident, c'est clair. Donc, il y a cette part-là.
C'est pas évident, mais c'est primordial, effectivement. Tout ce qui se passe, quels que soient les sujets qui nous entourent, les informations pleuvent. Et en fait, on est une génération où on aborde un peu ça, les enfants. Enfin, cette sensibilisation et cette éducation. L'information et à Internet n'est pas encore en place, quoi, hein, clairement.
Oui. Et en fait, ce qui me dérange, c'est le terme d'éducation aux médias, en fait. Pour moi, c'est plus juste de développer son esprit critique. L'éducation aux médias, en plus, il me semble que c'est quand même repris plutôt pour faire quasiment de la communication. Donc, pour moi, c'est plus d'apprendre à développer son esprit critique et à pouvoir être en capacité de critiquer les informations qu'on a. Qui viennent des médias ou pas. Enfin, je veux dire, aujourd'hui, effectivement, on a quand même un vrai problème journalistique de par le fait que la plupart des journaux appartiennent à des milliardaires proches de certains pouvoirs. Bon, bref. en tout cas, oui, clairement, il y a un souci avec ça. Et donc, c'est très compliqué de se situer aujourd'hui quand on a des informations qui contradictoires les unes avec les autres tous les quatre matins, quoi. Mm-hmm. Donc c'est sûr. Et la crise du Covid, clairement, n'a fait qu'amplifier ça.
Mais en tout cas, j'ai l'impression que le fait que vous ayez une formation scientifique, donc une capacité d'analyse, de traitement des informations scientifiques, plus un parcours de journaliste, ça augmente votre travail d'auteur et cette résidence-là aussi, dans la façon dont vous allez penser les choses, proposer des choses... aux collégiens, peut-être que d'autres auteurs auraient fait un travail très intéressant aussi, mais en tout cas n'auraient pas eu cette sensibilité-là.
Je sais pas trop répondre à cette question.
oui, moi je peux y répondre parce que oui, enfin c'était très différent de d'autres auteurs qu'on a pu accueillir, puisque là déjà, nous, on n'utilise pas le documentaire. Dans nos valises, on n'a pas de documentaire, puisqu'un documentaire, on ne le lit pas comme ça à deux. C'est beaucoup plus difficile à partager. Donc, on les utilise pas comme ça. On les a, bien sûr. Hein. Mais donc là, c'était un travail très, très différent. On a fait un petit pas de côté, mais qui, en fait, on se rejoint tellement sur des valeurs avec Claire, sur des choses à transmettre et à partager. Et puis, elle s'adresse à la jeunesse. Donc, mais effectivement, je pense qu'elle a apporté quelque chose d'un peu différent de ce qu'on a pu apporter avant. Mais en fait, à chaque fois, c'est un peu différent aussi. L'année dernière, c'était Eric Saint-Gelin qui faisait du pop-up. Et le pop-up, c'est aussi très délicat à utiliser dans la médiation. Hein, donc, parce que c'est fragile, voilà. Et puis c'était très là pour le coup il y a eu beaucoup d'ateliers très plastiques quoi. Donc mais effectivement Claire a apporté une autre dimension peut-être plus intellectuelle dans le sens où il a ce dont on parlait là à l'instant sur l'esprit critique, l'analyse, etc.
Et en fait, je suis assez partagée parce que je pense qu'il y a plein de formes différentes de création. Et donc, pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure, Marin Schaffner, lui, il fait plutôt des éco-fictions, par exemple. Il a travaillé autour du vécu des gens pour se questionner sur nos perceptions et sur comment on pourrait aussi vivre autrement. Un petit peu, je vais résumer, mais c'est un petit peu ça. Et donc, en passant peut-être plus par la fiction. Et alors moi j'aime bien passer par la fiction pour plein d'autres choses. C'est juste que j'ai un peu plusieurs types de projets, mais je pense qu'en fait ils se complètent tous et qu'il y a besoin de ces différentes formes. Surtout dans ces questions-là qui sont quand même, il me semble assez importantes justement de. La création, c'est aussi se questionner sur comment on vit quoi. C'est création artistique de manière générale, c'est questionner ce qui existe et permettre peut-être d'imaginer autre chose. Donc que ça passe par de la fiction, par quelque chose d'un peu plus scientifique, entre guillemets, peu importe, je pense que voilà, il faut qu'il y ait un petit peu de tout. Et après, j'ai peut-être des sujets sur lesquels j'ai ce besoin de m'appuyer sur des sources. Bon, c'est peut-être des formations professionnelles à force. Je dirais plus qu'en fait, ça, c'est une déformation journalistique que scientifique. Et le journalisme scientifique ou le fait d'avoir fait des sciences me permet de comprendre comment la science fonctionne, mais elle signifie pas forcément plus de rigueur tout le temps. Enfin, en fait, ça, je pense que c'est lié à des traits de personnalité. Il y a des personnes qui ont ce besoin d'aller vérifier l'information, d'aller faire justement plusieurs expériences pour vérifier, pour découvrir certaines choses. Et le journalisme et le scientifique et le fait d'être scientifique, c'est, je pense, c'est juste des moyens de percevoir une certaine réalité.
Et donc, quant au livret dont il a été question tout à l'heure, est-ce que vous voulez nous en dire un mot?
Oui, bah en fait, ce qui est super, c'est que là, les enfants donc sont en train de terminer leur histoire. Et l'idée, c'est qu'à la fin, on puisse imprimer ces histoires qui repartent avec leurs livres qu'ils ont imaginés eux, qu'ils ont créés eux-mêmes. On verra la forme que ça prendra. Mais l'idée, c'est aussi qu'il y ait les autres histoires des autres groupes pour qu'ils puissent voir aussi tout ce qui a été fait. Mais en tout cas, c'est assez important aussi de comprendre l'ensemble du processus de création d'un livre, c'est-à-dire de partir de l'idée, de la réflexion, de la création, et puis d'avoir à la fin, de voir comment on peut l'imprimer, comment sous quelle forme, quel format, d'avoir à la fin cet objet qui est un livre. Il y a toute une classe qui travaille aussi donc sur l'illustration. Donc il y a Arnaud Tetlin qui est illustrateur qui est venu les rencontrer. Arnaud Tetlin, c'est un illustrateur avec qui j'ai travaillé sur un autre projet là qui va sortir bientôt. Et on avait beaucoup discuté de cette idée de livre dont vous êtes le héros. Donc je trouvais chouette aussi qu'ils puissent venir rencontrer les enfants et leur parler d'illustration, de tout ce pan en fait qui est très important dans un livre particulièrement pour la jeunesse. J'espère que voilà que leurs illustrations pourront aussi figurer dans le livre. Et en parallèle de ça, il y aura une exposition donc où ils pourront montrer faire une sorte de fresque avec leurs illustrations. Et pendant la restitution, ils pourront aussi mettre en scène leur livre, sachant que ce qui est très chouette avec un livre dont vous êtes le héros, c'est que un peu théâtralement parlant, ça peut donner quelque chose de très sympa avec le public qui va choisir ou pas telle option et chaque enfant qui va pouvoir raconter la suite choisie par le public.
Et lors de cette restitution, les deux collèges, enfin les deux classes participantes, une à Tours, une à Descartes, ces enfants vont se rencontrer. Et ça va être hyper intéressant aussi, puisqu'ils n'ont pas du tout la même vision des choses. Hein, donc ça va être important. Et puis pour revenir sur le livret, c'est aussi, on va faire tout ça en partenariat encore, parce que voilà, encore une fois, on travaille toujours ensemble avec un éditeur des Mille Univers qui est à Bourges, qui travaille la typographie, le choix du papier, etc. Et qui fait beaucoup d'ateliers, donc toujours dans la transmission pour finir cette chaîne du livre.
Et qui se pose aussi toutes ces questions de qu'est-ce qu'on fait, pourquoi on le fait, comment on le fait.
De droit culturel, qui défend les mêmes valeurs. Quoi.
Est-ce que vous aimeriez dire, quand vous entendez ces échanges là entre une structure accueillante et une autrice, voilà, qu'est-ce que...
Bah, ça correspond vraiment en fait au dispositif. Ce qui est intéressant, c'est que Livre Passerelle a en même temps des habitudes, des partenaires déjà identifiés, mais en même temps à chaque fois, bien sûr, c'est quelque chose de nouveau, c'est un nouvel une nouvelle autrice, un nouvel auteur et une nouvelle. Donc c'est intéressant de voir aussi comment ça prend une nouvelle forme à chaque fois. On aime aussi beaucoup le, comme je parlais d'aménagement culturel et de fait de s'adresser à des habitants de différents coins de la région. En général, et c'est très bien, il y a une structure dans un coin du territoire régional. Là, c'est aussi intéressant de voir que Claire a pu comme ça aller dans le Chinonais, à Descartes, avec des types de territoires très différents. Et moi, je me demandais aussi une petite question sur l'avancée du livre, du coup. Est-ce que ça prend une forme un peu différente de ce que tu avais pensé au départ?
Oui, au final, oui. Il y a, alors pas sur le, ça a pas chamboulé tout le livre, mais en tout cas, si, carrément, ça a orienté un peu la forme de comment tisser l'histoire, de ce quoi y mettre dedans et de comment le mettre. Ouais, effectivement, ouais. Parce que donc là, on parlait justement d'informations quand même un peu dures à digérer, donc voilà, de passer beaucoup plus par du récit et des rencontres avec finalement beaucoup de personnages. Il va y avoir beaucoup de personnages dans ce livre. Donc oui, ça a quand même pas mal fait évoluer le livre. Et il me reste un gros boulot d'écriture là.
Et dans les groupes, tu t'es focalisé sur des thématiques, mais dans le livre, tu privilégies.
Non, dans le livre, il y aura ces thématiques, c'est juste qu'elles vont s'entrecroiser de manière un peu moins marquée que là, telle que je l'ai proposé aux enfants.
Voilà, est-ce qu'on pourra suivre l'avancée de ce travail sur votre site, Claire Lecoeur?
Alors, je suis pas très bonne communicante. Donc, sur mon site, je suis pas sûre de mettre l'avancée du livre, mais un jour, il paraîtra.
Voilà, mais en tout cas, on peut suivre vos travaux sur ce site qu'on mettra en lien de ce podcast. Et alors, du côté de Livre Passerelle, peut-être qu'il y a des choses aussi, des actualités à rappeler, puisque cette émission touche déjà à sa fin. Donc, c'est le moment agenda culturel.
Très bien. Bah justement, oui. Alors, on a sur notre site, on a un agenda qui est tenu à jour par une bénévole qui est très... très efficace. On a un agenda. Vous pouvez retrouver tous les endroits où on est. Il y a deux petites choses peut-être qu'on peut mettre en avant. On a un atelier passerelle, ce qu'on appelle un atelier passerelle, qui se tient tous les vendredis à 14h à la bibliothèque Paul Carla au Sanitas et qui est ouvert à tous, vraiment à tous. Donc on peut venir à 14h, tout le monde peut venir à 14h et puis pendant une heure on se lit des histoires plutôt entre adultes puisque quand même les enfants là sont à l'école à ce moment-là, donc c'est souvent entre adultes, on se lit des histoires en petits groupes et puis à la fin on boit un café et c'est très sympa. Et il y a vraiment une grande mixité, c'est ouvert à tous. Et puis on sera au salon du livre jeunesse de Beaugency pas le week-end prochain, mais le week-end d'après, c'est-à-dire le 23, 24, 25, je crois, si je ne dis pas de bêtises, mars. Pendant 3 jours, on sera sur le salon pour lire des histoires à tout le monde.
Merci. Alors, et pour terminer cette émission, Clémence Aide, est-ce qu'il y a quelque chose à ajouter du côté de Cyclique ?
Oui, peut-être juste vous inviter, si ça vous intéresse, de voir un peu quels sont les autres d'autres projets de résidence qui sont en ce moment. Donc, on parlait tout à l'heure de Marin Schaffner qui mène tout un projet avec le petit village de Boue, qui est pas très loin d'Orléans, sur ces mêmes avec une approche très différente, mais sur ces mêmes questions écologiques et de territoire, de comment on vit et comment on va vivre et comment on imagine le futur. Et il y a aussi, il y a d'autres projets qui sont là en cours, et puis vous pouvez en allant sur notre site voir toutes les rencontres publiques aussi qui sont proposées. Notamment, il y a François Beaune qui est un auteur qui mène tout un projet autour des histoires vraies du Val d'Amboise et qui propose des veillées où chacun est invité à venir raconter ses histoires vraies, une histoire vraie, puis écouter les autres, et puis lui il fait comme ça un portrait qui va l'inspirer ensuite pour ses prochains livres. Donc ça, c'est il y a des veillées ce week-end si ça vous intéresse de venir dans le coin d'Amboise. Toutes les infos sont à retrouver. Il y a une dramaturge et romancière, Aline César, qui a un projet aussi avec l'association Le Clos des Bernardines à Saint-Aignan. Il y a Fabien Arca, qui est un dramaturge jeunesse qui a un projet avec le théâtre de la Tête Noire. Un scénariste BD, Bernard Boulade, avec l'association La Pratique, qui est dans le sud de la région à Vatan. Et Ramona Badescu, qui est en ce moment aussi en résidence avec justement les Mille et une Vers dont on parlait tout à l'heure, qui sont donc à Bourges. Donc vous pouvez retrouver toutes les infos sur ces projets et toutes les dates des rencontres publiques si ça vous intéresse.
Eh bien, merci beaucoup à vous, mesdames, d'être venues dans cette émission La Méridienne sur Radio Campus Tours. Voilà, émission à réécouter aujourd'hui même à 17h et à retrouver en podcast sur notre site radiocampustours.com. Il me reste à vous souhaiter la meilleure journée possible à l'écoute de nos excellents programmes, bien sûr.